Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les circuits de l'information de l'État sont-ils grillés ? Ils avaient pourtant prévenu. Les préfets se désespèrent de ne pas avoir été entendus et de ne toujours pas être écoutés par le sommet de l'État à propos du mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qui ressort d'un article récent du journal Le Monde. Des préfets s'y expriment de manière anonyme pour dire notamment que le pouvoir est dans une bulle technocratique. Dans le même journal, Gérard Collomb dresse un diagnostic assez proche. L'ancien ministre de l'Intérieur considère que les cabinets ministériels pèsent d'un trop grand poids avec des jeunes gens brillants sur le plan théorique, mais n'ayant pas forcément l'expérience de la vie de tous les jours, et de déplorer, ce sont toujours les termes de Gérard Collomb, le caractère technocratique des décisions prises. Alors on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas en avoir conscience. Le chef de l'État avait annoncé il y a près d'un an une grande réforme de la fonction publique, avec parmi les pistes envisagées l'idée que les fonctionnaires des grands corps se frottent au réel, que les élèves les mieux classés à la sortie de l'ENA fassent d'abord du terrain avant de rejoindre l'inspection des finances ou le Conseil d'État. Alors cette réforme devait être annoncée demain, ce sera finalement début 2019. Réforme essentielle, on le voit, au regard de la situation sociale et du diagnostic posé par les manifestants et par ceux qui les observent, à savoir celui d'un État déconnecté de sa base. Diagnostic, il faut bien le dire, qui vaut pour ce quinquennat comme pour les précédents. Alors les circuits de l'information de l'État sont-ils grillés ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir, en essayant de comprendre justement comment l'État fonctionne et notamment comment l'information y circule, en compagnie de trois invités. Aurore Gorius, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste Au Jour, qui est un site d'information et de reportage qui fonctionne notamment à partir d'obsessions, c'est-à-dire ce sont des sujets que vous creusez les uns et les autres. Vous êtes notamment intéressé aux conseillers d'Emmanuel Macron. Puis on vous doit également un livre, c'était à la découverte en 2016, « Les gourous de la com des rap, grandeur et décadence des conseillers de l'ombre ». Nous avons justement un gourou de la com face à vous, Gaspard Ganzer. Bah, j'étais obligé de la faire. Bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondateur de l'agence de conseil en communication 2017, vous êtes haut fonctionnaire, ancien conseiller en communication de François Hollande. Vous en avez tiré un ouvrage, La politique est un sport de combat, que vous avez publié l'an dernier chez Fayard. Et puis on vous retrouve une fois par mois sur cette antenne dans l'esprit public d'Émilie Aubry le dimanche. Puis troisième invité, il est en duplex des studios de France Bleu à Besançon, Jacques Barthélémy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller d'État, ancien préfet, vous l'avez été de 1989 à 2010, je ne vais pas citer tous les postes, vous en avez fait sept différents en tant que préfet, les Landes notamment, les Côtes d'Armor, la Seine-et-Marne, et vous avez publié, vous l'an dernier aux éditions du Sequoia, La comédie du pouvoir, mémoire et souvenir d'un préfet de la République. Alors je voudrais qu'on commence avec l'allocution hier soir d'Emmanuel Macron, non pas pour en commenter le contenu, c'est pas l'objet de cette émission, mais pour savoir d'abord peut-être à qui elle s'adressait. Alors elle s'adressait bien sûr à l'ensemble des Français et manifestement ça a plutôt bien fonctionné. 23 millions de téléspectateurs, toutes chaînes confondues, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Mais moi j'aimerais savoir, Gaspard Ganzer, quand le chef de l'État fait une allocution aussi solennelle, est-ce qu'il s'adresse aussi, pas seulement, mais aussi à son administration ?
À l'évidence, oui. Vous avez raison de dire que l'audience d'hier était exceptionnelle et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire que la parole présidentielle est encore écoutée, j'espère pour le plus longtemps possible. Mais la communication externe d'un dirigeant public, et donc à commencer par le président de la République lui-même, est aussi un outil de management interne. Il y a des circuits de décision et de redescente de l'information et des décisions dans l'administration, qui est une administration extrêmement hiérarchique. Mais souvent, la meilleure façon de faire passer un message vite, c'est pas d'utiliser une circulaire, qui est le mode normal de communication au sein de l'administration, mais c'est d'utiliser les médias. Donc c'est ce que faisait, c'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce que faisait souvent François Hollande aussi, qui utilisait ses conférences de presse pour faire des grandes annonces. On se souvient de la conférence de presse où il avait annoncé le pacte de responsabilité notamment. Puis après, toute la machine administrative se met en branle pour mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Et là, chacun connaissait bien la feuille de route hier après avoir écouté Emmanuel Macron.
Jacques Barthélémy, quand on est préfet, on a intérêt à écouter les allocutions présidentielles à la télévision ou à la radio. C'est-à-dire on y apprend aussi peut-être des choses sur ce que l'on va devoir faire par la suite.
Oui, alors c'est assez logique puisque nous sommes conduits à être des représentants et de l'État et du gouvernement. Donc on est chargé de mettre en valeur les politiques nationales annoncées par le président ou un ministre ou un premier ministre. Et puis on est également non seulement un outil de la communication gouvernementale, mais un agent de la communication gouvernementale, notamment dans les cas graves.
Alors dans cette allocution d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'en ai relevé une qui a trait justement au sujet dont on discute ce soir. Bah, je vous cite cette citation. « Je veux que soit posée la question de l'organisation de l'État, de la manière dont il est gouverné et administré depuis Paris, sans doute trop centralisé depuis des décennies. » Vous qui vous êtes intéressé, donc Aurore Gorius, au cabinet ministériel, est-ce que vous diriez que ce constat est un constat plutôt lucide d'une centralisation du pouvoir? Alors on verra si cette centralisation ensuite, en tout cas à qui elle profite et de quel côté elle s'oriente, mais est-ce que vous partageriez déjà ce premier diagnostic?
Oui, alors je crois qu'il est vrai depuis beaucoup d'années en réalité, et sous les pouvoirs précédents aussi, on sait qu'on est dans un État très centralisé, où les beaucoup de choses, je crois que Gaspard Hanser ne démentira pas, beaucoup de choses remontent à l'Élysée, tout passe par l'Élysée dans les décisions, dans la décision publique, et toutes les informations remontent au plus haut niveau de l'État. Mais en plus, c'est vrai que avec Emmanuel Macron, on a un président qui est arrivé au pouvoir avec un mouvement mais sans parti politique, gouverne, qui a nommé des conseillers qui sont issus de sa campagne, donc des gens qui ont fait sa campagne avec lui, et on sait, ça a été beaucoup raconté notamment au moment de l'affaire Benalla, qu'il gouverne avec une petite troupe de fidèles, et donc on sait que c'est un pouvoir non seulement centralisé de par sa structure, mais aussi dans la façon dont Emmanuel Macron gouverne lui-même. Et après, quand il est arrivé, il a aussi nommé à la tête des ministères, non pas des politiques, non pas des ministres avec une grande surface politique, mais plutôt des technocrates. Si on prend Jean-Michel Blanquer à l'éducation, ce n'est pas un politique. Si on prend Elisabeth Borne au transport, ce sont des gens qui ont fait carrière dans l'administration. Donc ça a été un choix aussi de sa part.
Jacques Barthélémy, vous feriez aussi, vous le constatez, une centralisation du pouvoir, pas forcément uniquement sous Emmanuel Macron, mais en tout cas une tendance à cette centralisation, ou peut-être à une concentration du pouvoir. Les deux termes veulent pas dire exactement la même chose.
Non, mais c'est pas nouveau, ça fait 30 ou 40 ans que ça dure. Donc je crois que, et moi je l'ai vécu sous tous les présidents de la République que j'ai connus, et c'est bien l'une des raisons actuellement des difficultés que rencontre le président de la République actuel.
Les présidents de la République que vous avez connus, hein, je crois que c'est François Mitterrand, Jacques Chirac et peut-être un peu de...
Non, j'ai commencé quand j'étais sous-préfet sous Giscard.
Oh là,
Oui, quand j'étais sous-préfet, puis ensuite j'ai connu évidemment tous les autres présidents jusqu'à Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas connu François Hollande parce que j'étais à cette époque-là au Conseil d'État. Donc, mais la centralisation au niveau parisien, le poids des administrations centrales, alors je ne parle pas de Bercy qui est évidemment le poids déterminant, mais des autres administrations centrales, malgré les efforts de déconcentration faits par les gouvernements successifs, n'a pas pour l'instant donné des résultats très remarquables. Donc c'est une vérité, il faut à la fois... Alors on a fait une décentralisation qui a enlevé des compétences à l'État, qui a créé plus de doublons d'ailleurs que de transferts, et puis on n'a pas parallèlement, depuis Gaston Defferre d'ailleurs en 82, on a voulu faire une déconcentration mais qui a toujours été reprise. Regardez un exemple un peu technique, pardonnez-moi, la loi d'orientation sur les lois de finances a contribué à recentraliser les décisions budgétaires à Paris. Si les préfets de région avaient un peu plus de possibilités de gérer leurs crédits, de gérer leurs fonctionnaires et de mettre en œuvre les actions publiques, je suis convaincu que le système fonctionnerait mieux.
Vous qui avez passé plusieurs années, Gaspard Ganzer, au cœur de l'État, et en l'occurrence à l'Élysée, en conseillant François Hollande dans sa communication, est-ce que vous faites le même constat de cette centralisation ?
Oui, évidemment, je ne démentirai pas ceux qui ont parlé avant moi. On est souvent surpris à l'Élysée de voir toutes les décisions y remontent. On la fixation du barème d'un impôt, des décisions qui pourraient relever du pouvoir réglementaire, des allocutions de ressources. Donc on pourrait se dire, c'est logique, le président est élu au suffrage universel, donc c'est lui qui est détenteur de la légitimité. Mais à l'inverse, on sait que c'est pas souhaitable, parce qu'un homme seul ne peut pas décider de tout.
Mais c'est quoi ? C'est un excès de zèle de ceux qui font remonter les informations en se disant, il faut absolument, je me couvre peut-être et je fais remonter un maximum, ou bien c'est à la demande du pouvoir et du chef de l'État d'en savoir un maximum ?
Je pense qu'en réalité, ce sont les deux. Ce qui est intéressant, c'est que tous les candidats à la présidentielle se font élire en réalité en disant qu'ils ne décideront pas de tout, qu'ils se mettront haut, en surplomb quelque part. Certains même vont jusqu'à dire qu'ils seront les candidats d'un mouvement citoyen, ce qui était le cas d'Emmanuel Macron. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils se lovent en quelque sorte dans la technocratie. Et c'est bien évidemment regrettable, parce que l'appareil d'État qui est déjà extrêmement hiérarchique et bureaucratique à la base, n'a pas besoin d'être renforcé par davantage de technocratie. On citait tout à l'heure Mitterrand, mais on pourrait citer aussi Sarkozy. Ils ont su, peut-être à leur manière aussi, s'entourer de gens qui étaient un peu différents. Mitterrand, autour de lui, avait quand même des personnalités qui n'avaient rien à voir avec la haute administration. On peut penser à Régis Debray, à Orsena, et bien d'autres, et c'était peut-être positif. Sous Hollande, je ne suis pas bien placé pour le dire, mais je le dis quand même, et sous Macron, on voit que c'est quand même très homogène, et encore plus sous Macron, avec beaucoup de technocrates.
Voilà, parce que je rappelle que vous êtes un des camarades de promotion d'Emmanuel Macron à l'École nationale d'administration.
Je le dis, parce que comme ça, je m'out moi-même. Effectivement, je suis énarque. Après, j'ai un parcours dans la communication qui m'a éloigné de cette formation initiale.
Ça vous fait un point commun avec Jacques Barthélémy. Aurore Gorius, justement, sur la façon de choisir l'entourage, la façon de choisir les membres des cabinets ministériels sous ce quinquennat, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Emmanuel Macron a fait un choix en arrivant, il a dit on va limiter les cabinets ministériels. Donc 10 conseillers maximum pour un ministre, 8 pour un ministre délégué et 5 pour un secrétaire d'État. Et puis, alors du coup, ça a une conséquence quand même, c'est que les cabinets ministériels, qu'on peut parfois trouver trop importants, quand ils sont réduits, c'est aussi la partie politique qui est affaiblie et qui redonne de la place mécaniquement à l'administration. Donc ça peut affaiblir la capacité d'action du ministre, qui est censé être une décision politique et non pas administrative. Et donc, on a vu par exemple sur la première grande réforme du quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme du Code du travail, on a vu des cabinets qui étaient très rapidement débordés, des syndicats qui essayaient de parler aux conseillers qui n'y arrivaient pas. Donc le dialogue ne se faisait pas et la remontée du terrain vers les ministres et vers ne se faisait pas correctement. Donc c'est un choix qui est compliqué parce que du coup forcément le ministre dans ce qu'il entend dans les remontées il n'a pas ça peut le couper de certaines informations.
Et pourtant on pourrait y trouver une vertu justement en termes de circulation de l'information, Gaspard Ganzer, c'est-à-dire si on a des cabinets qui sont moins importants, il y a peut-être moins de déperdition d'informations, c'est-à-dire les interlocuteurs sont en nombre plus réduit, donc ça peut circuler plus vite. Ça marche pas forcément comme ça ?
Non, en fait, de toute façon, je pense que l'information circule quand même assez vite au sommet de l'État, parce que on peut reprocher beaucoup de choses à l'appareil d'État, mais en face aux situations de crise, il sait aller vite, on l'a vu dans les moments dramatiques comme les attentats. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut trouver un équilibre pour le coup, il faut être dans le en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas des cabinets pléthoriques. Le cabinet d'Emmanuel Macron, quand il était à Bercy, était pléthorique. Ouais. Ils étaient très 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 nombreux. Ouais. C'est trop, parce que dans ce cas-là, les cabinets se substituent à l'administration, et ça, ce n'est pas bon. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça soit trop réduit, parce que quand c'est trop réduit, c'est l'administration qui décide seule. Or, il faut que la politique prenne ses droits, les relations avec les élus, les relations avec la société civile. Le rôle d'un bon conseiller, ce n'est pas d'être le supplétif de se substituer à l'administration, c'est d'avoir les yeux et les oreilles ouvertes, et d'aller aussi rencontrer des gens très différents, des visiteurs du soir, aller sur le terrain, etc., pour apporter quelque chose de différent et complémentaire par rapport à ce que dit l'administration.
Mais est-ce que ça, c'est une culture très répandue chez les conseillers ? Parce que quand on voit le parcours et quand on voit le fonctionnement de certains cabinets, on n'a pas l'impression que c'est toujours vers le terrain qu'ils se tournent.
C'est pas la pratique la plus répandue, mais heureusement, il y a des bons conseillers. Moi, j'ai travaillé...
On espère, en tout cas.
Ouais, heureusement. Non, mais en tout cas, ou alors des bons chefs qui forment bien leurs conseillers. Vous savez, j'ai travaillé plusieurs années avec Bertrand Delanoë. Il m'engueulait tout le temps parce qu'il me disait mais qu'est-ce que tu fais dans ton bureau ? Tu ferais mieux d'aller au café, au bistrot, d'aller parler avec les chauffeurs de taxi, parce que c'est comme ça que tu me serais utile, parce que tu me ferais remonter des informations différentes. À l'Élysée, il y avait des conseillers qui, quand j'étais auprès de François Hollande, qui ne venaient pas du tout du Sérail, Vincent Feltès, qui était un ancien élu local, Bernard Poignant, qui a été maire de Quimper, Bernard Combes, qui était maire de Tulle, et ils apportaient des choses différentes.
Et quand on est préfet, est-ce qu'on passe justement une partie de ces journées au bistrot Jacques Barthélémy pour essayer de sentir un petit peu le terrain?
Non, Dieu merci, pas au bistrot, mais auprès des corps intermédiaires, auprès des élus locaux, auprès des syndicats et même parfois auprès d'associations. Donc auprès de la population, nous on est vraiment sur le terrain. Donc pour nous, c'est tout à fait naturel. Et on fait remonter aux différents ministres, notamment au ministre de l'Intérieur, des rapports hebdomadaires sur la situation de notre département ou de notre région.
Avec, je crois, la nécessité d'être assez synthétique dans ce rapport, c'est ça ?
Non, mais naturellement.
C'est une page,
ensuite, ils
c'est
sont eux. Non,
pas forcément.
Pas forcément, ça dépend des gouvernements. Ensuite, ils sont synthétisés de toute façon à l'intérieur, puis transmis au Premier ministre et au Président de la République. Dans toutes les situations délicates et des crises, c'est pas la première, il y en a eu beaucoup, les préfets généralement ne sont pas toujours écoutés. Pourquoi ? Parce que ce sont des oiseaux de mauvaise augure. Par nature, il faut remonter ce qui va pas. Or, auprès des chefs, il y a, et c'est ce qu'évoquait M. Ganzer, des cabinets qui parfois ne veulent pas être désagréables avec leur patron et ont tendance un peu à amoindrir les rapports des préfets en disant « Oh, ils ont tendance à exagérer, etc. » Or, je crois qu'il y a une chose, un gouvernement qui n'écoute pas ses représentants est condamné à terme. C'est ce qui est arrivé à Giscard d'Estaing.
Vous vous reconnaissez dans ce portrait, Gaspard Ganzer, c'est-à-dire de ne pas toujours peut-être oser déplaire à celui qui est votre supérieur. Vous, c'était pas n'importe lequel, c'était François Hollande.
Moi, malheureusement, j'étais souvent un oiseau de mauvais augure pour François Hollande parce que je lui expliquais que les sondages baissaient, que je lui faisais part d'un article dans la presse qu'il n'avait pas vu, ou alors de ce que disaient notamment les gens sur les réseaux sociaux, parce que j'avais la responsabilité de la communication numérique de l'Élysée. Je peux vous dire que comme on était chargé de faire de la veille sur Facebook et sur Twitter, les nouvelles que j'apportais au président de la République étaient évidemment exécrables, mais je les disais à plat. Du matin jusqu'au soir. Il y a toujours des courtisans dans les entourages des présidents, surtout au début des quinquennats d'ailleurs, parce que...
Ça aide à avoir des postes aussi.
Voilà, certainement. Moi, je suis arrivé en 2014, des courtisans, il y en avait déjà beaucoup moins, parce que le président de la République était à moins de 20% dans les sondages, il avait fait la une de la presse People et il avait essuyé une dérouillée au municipal, il n'y avait plus beaucoup de gens pour partir au secours de la victoire. Je pense qu'Emmanuel Macron, il sera entouré de moins de courtisans à la fin de son quinquennat aussi. Je pense que le rôle d'un conseiller, c'est de dire la vérité, même quand elle est extrêmement désagréable, et surtout d'écouter ceux qui savent, parce que quand vous êtes à l'Élysée, vous pouvez être enfermé par ce palais un peu trop doré, il faut écouter les préfets comme M. Barthélémy.
Ces hésitations dont parlait Jacques Barthélémy, qui peuvent être le fait de certains conseillers ministériels, Aurore Gorius, font peut-être aussi de complaisance, en tout cas la peur de déplaire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé en enquêtant justement sur les cabinets ministériels ? J'ai plutôt l'impression de l'inverse, notamment si on se réfère par exemple au texte introductif de votre obsession pour le site Les Jours. Vous écrivez ceci, ils sont des centaines dans l'ombre de gouvernants à exercer un pouvoir colossal. D'IRCAB, chef de cabinet et conseiller technique, façonnent la stratégie des ministres ou écrivent des lois. On a plutôt l'impression que c'est le mouvement inverse que vous décrivez.
Ces conseillers ont du pouvoir, ça c'est certain. Il faut distinguer les administrations. Là, on a beaucoup parlé de la préfectorale. Il y a une administration qui s'appelle Bercy, dont est issu Emmanuel Macron, et dont est issu son secrétaire général, Alexis Kohler, qui a été son directeur de cabinet quand il était ministre de l'économie à Bercy. Et l'administration de Bercy, par exemple, c'est l'administration qui n'est pas, qui est une administration qui porte des réformes, qui est une administration technocratique par excellence, qui fabrique des réformes et qui essaye parfois de les promouvoir. Et c'est une administration qui n'est pas liée à un secteur d'activité, comme par exemple l'éducation ou l'agriculture. Donc c'est une administration qui parfois aussi a une approche plus technocratique que d'autres. Et on retrouve ça, je trouve, dans la façon d'exercer le pouvoir d'Emmanuel Macron, dans les choix de ses collaborateurs. Et on voit par exemple que, si on prend un exemple assez récent, sur le prélèvement à la source, Emmanuel Macron a beaucoup hésité, mais finalement ça se fait parce que c'était une réforme que Bercy voulait depuis des années, en disant tous les pays occidentaux y sont passés ou presque, il faut qu'on la fasse, et elle se fait, alors qu'on voit bien que dans le contexte actuel, politiquement, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc il y a aussi des administrations comme ça qui ont vraiment du pouvoir et qui sont dans une logique plus technocratique que d'autres.
Jacques Barthélémy, quand on est préfet, est-ce que la haute administration fait partie des interlocuteurs qui peuvent être possibles ? Ce sont les cabinets, c'est-à-dire à qui on s'adresse en priorité ? J'imagine qu'il n'y a pas toujours un accès direct au ministre, a fortiori au Premier ministre et au chef de l'État.
Non, bien évidemment, mais on s'adresse aux directeurs de cabinet, aux conseillers des différents ministres, principalement celui de l'Intérieur, mais pas exclusivement. Quand vous avez une crise agricole, vous adressez au cabinet du ministre de l'Agriculture. Et pour en avoir vécu une, je peux vous dire qu'il y a des conseillers, et sur ce point je rejoins ce que disait M. Ganzer, qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe dans les provinces, qui ne sont pas... appelons des technocrates qui ne connaissent pas la vie en province ou la vie des gens et qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes qui se posent dans des situations compliquées. Donc moi je travaillais évidemment avec les cabinets. Enfin, c'est le rôle d'un préfet. Et encore une fois, il faut, comme le disait M. Ganzer, dire la vérité aux gouvernants. Si on leur dit pas, on leur rend le plus mauvais service. On les envoie dans le mur. Donc, on a intérêt à dire les choses avec vérité, avec précision. Bon, voilà, il s'agit ni de faire du catastrophisme, ni d'être courtisan. Il faut trouver le bon équilibre, mais dire la vérité. C'est très important. Et puis, deuxième chose, pour les technocrates, les vrais, enfin, je dirais ceux de Paris. Moi, j'ai une carrière plutôt provinciale, et je m'en suis toujours... J'ai toujours été heureux de cela. Il faut faire attention aux gens qui ne doutent pas. Un homme qui ne doute pas est amené à avoir des déboires. Ça, c'est une vieille règle philosophique ancienne et qu'on rencontre toujours aujourd'hui.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Les circuits de l'information de l'État sont-ils grillés? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Jacques Barthélémy, qui est un ancien préfet. Gaspard Ganzer, ancien conseiller en communication de François Hollande. Et Aurore Gorius, qui est toujours journaliste et qui a notamment enquêté sur les cabinets ministériels. Alors, vous avez fait cette séparation, Jacques Barthélémy, dans votre dernière intervention, entre en gros Paris et la province. Est-ce que c'est quelque chose, là encore, qu'on peut retrouver peut-être dans la sociologie des cabinets ministériels et de la préfectorale? Et est-ce que ça explique aussi peut-être la façon dont on pense la formation de ce qu'on appelle les grands commis de l'État, Gaspard Ganzer? C'est-à-dire, quand on est à l'ENA, par exemple, est-ce que les Parisiens vont davantage aller vers l'inspection des finances, vers le Conseil d'État, c'est-à-dire vers les grandes institutions parisiennes, et puis laisser la préfectorale pour les pauvres provinciaux qui auront eu la chance de faire l'ENA?
Alors, je pense que c'est difficile de trouver des règles générales, parce que les parcours scolaires sont finalement assez variés, ou en tout cas les itinéraires de vie pour aller jusqu'à l'ENA, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et les gens qui sont devenus des Parisiens au moment de leur étude supérieure et qui après passent l'ENA sont devenus des Parisiens, on va dire d'adoption après 18 ans ou 20 ans, parce qu'ils ont fait des prépas, des grandes écoles, et qu'après ils ont fait l'ENA. Pas pour autant qu'ils n'ont pas vécu en province le reste de leur vie ou qu'ils y retournent. Moi, j'ai des amis qui sont aujourd'hui encore à l'inspection des finances. Je pense spontanément à quelqu'un qui s'appelle David Jez, qui par ailleurs est aussi essayiste. Lui, il vient du sud-ouest de la France. Il y passe, il y retourne en permanence. C'est une question d'état d'esprit personnel. Moi, si vous me permettez une anecdote personnelle, moi, à la sortie de l'ENA, j'avais la possibilité, je n'étais pas super bien classé, soit d'aller dans un ministère, soit dans la préfectorale. J'hésitais entre les deux et au final, j'ai décidé d'aller dans un ministère, celui des affaires sociales, non pas parce que je détestais la province, mais parce que je préférais vivre à Paris. Mais ça, c'est un choix extraordinairement personnel. J'aurais très bien pu aller dans le corps préfectoral, et mes amis qui y sont allés ont adoré cette mission. Pourquoi? Parce que peut-être une des rares choses qui est positive à l'ENA, beaucoup de choses à critiquer sur l'ENA, mais une chose qui est positive, c'est que tout le monde doit faire un stage dans le corps préfectoral. Et il n'y a pas un énarque qui viendra vous critiquer son stage en préfecture. Moi, je l'ai fait à Grenoble, par exemple, pendant 6 mois, et j'ai trouvé ça passionnant. Et si j'avais eu un jour l'occasion de rentrer dans ce beau corps, je l'aurais fait avec plaisir.
Vous savez si ça fait rêver quand on est à l'ENA, la préfectorale, Aurore Gorius? Je poserai la même question, évidemment, après à Jacques Barthélémy.
Bah, je ne suis pas sûre que ce soit Enfin, je pense que c'est un corps qui attire. Après, c'est effectivement après des choix de vie. Je pense que l'administration centrale reste quand même très attractive, parce que tout le monde sait très bien que c'est là que les décisions en France se prennent énormément. C'est dans les administrations centrales.
Et c'est d'ailleurs le sens de la réforme que veut Emmanuel Macron, c'est-à-dire de dire ceux qui sortent dans la botte, alors c'est voilà, mieux classé à l'ENA, plutôt que d'aller vers justement ces administrations centrales très prestigieuses, donc
notamment
pas que la préfectorale ne le soit pas, bien sûr, et qui fassent d'abord du terrain.
L'Inspection Générale des Finances, tous ces grands corps qui sont des endroits où, qui sont très attractifs, c'est les plus prestigieux quand même. Donc, on le dit depuis des années que l'ENA doit se réformer, qu'il faut que les étudiants de l'ENA aient une expérience de terrain beaucoup plus forte. Il y a une expérience en préfecture. Après, c'est aussi des trajectoires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est resté dans l'administration centrale pendant des années, peut-être qu'il a une sensibilité de terrain, peut-être pas du tout. Dans les trajectoires, il y a des gens qui commencent dans un cabinet ministériel, font toute leur carrière dans l'administration, retournent en cabinet, deviennent ministres. Est-ce que ces gens-là retournent suffisamment sur le terrain, dans leur trajectoire? Il y a aussi beaucoup de conseillers qui font des passages dans des entreprises privées maintenant. C'est beaucoup plus répandu qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans. Et quand on dirige une grande entreprise comme la RATP ou d'autres, ou Danone, ou parce que c'est les ministres actuels, c'est le cas, sont passés par ces entreprises-là, est-ce qu'on est vraiment en contact du terrain? Voilà, c'est des questions. Donc, les carrières parfois amènent certains conseillers à être toujours à Paris tout le temps.
Jacques Barthélémy, après avoir fait l'ENA, quand vous choisissez la préfectorale, est-ce que c'est justement pour être au contact du terrain et ce qu'on disait peut-être par rapport à la façon dont la préfectorale est donc, qui est vraiment un poste là, vraiment au plus près de la population, en tout cas un des plus près s'agissant des services déconcentrés de l'État, est-ce que c'était quelque chose de plutôt bien vu ou de plutôt, on va dire, négligé, disons, par les énarques?
Non, pas du tout. Ça dépend des périodes. Moi, quand je suis sorti de l'ENA, le corps préfectoral était situé dans les tout débuts du classement, après les grands corps. J'ai failli sortir au Conseil d'État. Pour une raison, je suis sorti un peu en dessous. Et donc, j'ai pris le corps préfectoral parce que c'était, dès le départ, ce que je voulais faire. Et puis, il y a des périodes où le corps préfectoral régresse dans le classement. Il est en milieu de classement, puis en fin de classement. Ça dépend des évolutions politiques. Lorsqu'il y a eu la décentralisation, le corps préfectoral a baissé. Ce qui était une erreur, d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Bref, moi, j'ai choisi le corps préfectoral parce que c'est un métier d'action. Et si vous voulez, un préfet, comme beaucoup d'autres fonctionnaires, bien sûr, ne se réalise dans sa vie professionnelle que s'il conduit ou promeut des actions utiles à la communauté. Donc, il est chargé de mobiliser, en quelque sorte, les forces vives de son territoire. Et moi, je trouvais ça passionnant, parce que c'est un métier d'autorité sans égale. Enfin, il n'y a aucun métier de fonctionnaire qui permet d'agir de cette manière-là, d'être au contact des réalités sociales, d'être un médiateur, d'être un homme d'action, bref, et même de faire de l'ordre public, qui est la chose la plus difficile au monde, on le sait bien. Alors, je voulais vous dire aussi qu'il y a quand même, faut pas oublier, quelques préfets, et non des moindres, qui sont directeurs de cabinet de ministres. Généralement, il y a toujours un préfet dire cap du ministre de l'Intérieur. Mais il y en a aussi, et ça parfois utile dans des ministères techniques, à l'agriculture ou dans un certain nombre de ministères. Je crois que c'est nécessaire parce qu'ils font remonter, après une carrière de terrain, leur expérience et ils peuvent, avec les autres conseillers, aider le ministre dans ses décisions. Voilà, moi je l'ai choisi peut-être parce que je suis provincial d'origine, mais aussi parce que je voulais faire un métier en province. J'ai peu fréquenté les cabinets, pour ne pas dire presque jamais, et je m'en suis pas mal porté, mais j'ai fait une carrière de préfet professionnel, ni de préfet politique, ni autre chose, parce qu'après on peut aussi choisir des options politiques ou autres, si on veut avoir une accélération de carrière.
Le métier d'ailleurs, Jacques Barthélémy, pardonnez-moi, je vous interromps, le métier de préfet, il suppose aussi d'être très mobile, hein, je disais en 21 ans, vous avez dû changer tous les 2 ans et demi, 3 ans, vous changez de poste.
2 ans et demi, 3 ans, oui, mais ça fait partie de l'intérêt de la chose.
Oui, ça fait partie de l'intérêt, mais est-ce qu'en même temps, ça ne vous prive pas d'une connaissance approfondie du terrain qui vous permet ensuite de faire remonter les informations de manière... particulièrement pertinent.
À condition qu'on laisse les préfets en poste suffisamment longtemps. Quand vous avez des préfets qui tournent tous les 2 ans, 2 ans et demi, c'est insuffisant. Moi, j'ai eu la chance de rester en moyenne 3 ans dans mes postes. Et là, vous avez le temps de lancer une initiative, de la voir se développer, de l'évaluer. En dessous de 3 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je sais bien qu'il faut faire tourner aussi les fonctionnaires. Et puis j'ajoute pour les énarques, je voudrais revenir un peu sur ce que disait Monsieur Gamzer tout à l'heure. Il y a toute une série d'énarques qui viennent de province, qui sont la voie fonctionnaire. Les énarques qui sont venus par la deuxième voie, et beaucoup d'entre eux sont issus de catégories socio-professionnelles, provinciales, pour beaucoup, pas tous, mais qui ont connu aussi l'administration dans les plus bas degré. Il faut quand même pas oublier ça, c'est très important. Ça vivifie le corps préfectoral, ça vivifie les énarques qui ne doivent pas être considérés uniquement comme des gens complètement hors sol.
Alors cette connaissance-là, c'est peut-être justement ce qui fait défaut aujourd'hui à l'administration, à l'entourage du président de la République, Gorgorius.
Oui, sans doute, parce qu'encore une fois, il a choisi des conseillers relativement jeunes qui ont fait sa campagne avec lui, il gouverne avec eux, et dans les ministères aussi, est-ce que il y a une écoute suffisante? On sent bien que le pouvoir s'est en grande partie coupé du terrain. Il faut rappeler que le seul ministre qui avait une surface politique au moment de la constitution du gouvernement, c'était Gérard Collomb, qu'il est parti en tirant la sonnette d'alarme, vous l'avez dit, qu'un autre ministre issu de la société civile, donc plutôt des réalités de terrain, Nicolas Hulot, a aussi claqué la porte pour les raisons qu'on connaît, en pointant du doigt les lobbies. Donc finalement, on a vraiment l'impression qu'il gouverne de façon technocratique, avec effectivement un entourage extrêmement restreint, et que ça lui a sans doute porter préjudice et que la crise actuelle n'est pas étrangère à ça.
Alors vous évoquez Gérard Collomb, c'est vrai que c'était à la base un élu local, de longue date, donc avait cette expérience du terrain. Par ailleurs, quand on passe place Beauvau, quand on est ministre de l'Intérieur, on est censé être, si ce n'est le personnage le mieux informé d'État, en tout cas un des mieux informés. Avant de poursuivre la discussion, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une émission récente, politique, que j'ai le plaisir de présenter le samedi à midi, voilà, petite page d'autopromotion, qu'on avait consacré justement à la place Beauvau, un État dans l'État, au moment du départ de Gérard Collomb. Écoutez ce qu'en disait le documentariste Laurent Huberson. Il a rencontré beaucoup d'anciens ministres de l'Intérieur sur la réalité de son pouvoir et de l'information dont il dispose.
C'est d'abord le ministère de l'information. Enfin, de l'information, on est très bien informé. Non pas au sens de fliquer les Français, mais vous avez, à côté du corps de la police nationale, vous avez le corps des préfets. Et les préfets, dans tous les départements, c'est les yeux et les oreilles du ministère intérieur. Donc, vous êtes à même d'entendre les demandes, de préparer votre programme, de savoir ce qu'attendent les Français. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Ensuite, c'est le ministère de l'action. Et n'oubliez jamais que la dimension sécuritaire, surtout dans les périodes passées et encore aujourd'hui, c'est une dimension très forte en période électorale. Et là, quand vous passez à l'intérieur, vous acquérez cette culture de la sécurité. Et troisième point, c'est que aussi, le ministère intérieur, et ça Charles Pasqua le dit très bien, c'est un ministère régalien où vous avez l'autorité de l'État. C'est du ministère où vous apprenez la centralisation de la République, qui est la marque principale du président de la Ve. Tout remonte au ministère de l'Intérieur. Tout est centralisé. Quand vous arrivez à l'Élysée après, vous êtes habitué à cette centralisation extrême. Et c'est peut-être ce qui manque un peu au président actuel, Emmanuel Macron, de ne pas être passé à l'intérieur.
L'extrait donc de cette émission, c'était le documentariste Laurent Huberson. J'aimerais avoir la réaction de Gaspard Ganzer et de Jacques Barthélémy. Gaspard Ganzer.
Oui, je trouve que c'est intéressant d'écouter cet extrait, et puis surtout de repenser à l'expérience singulière de Gérard Collomb, qui en fait, je pense, a vécu un sentiment de déception, en tout cas d'incompréhension, quand il est arrivé au plus haut sommet de l'État, parce qu'il a eu un coup de foudre pour Emmanuel Macron, et puis il s'est rendu compte du décalage qu'il y avait, non pas avec Emmanuel Macron, parce que je pense qu'ils ont conservé cette relation, mais avec cet entourage qui se ressemblait beaucoup et qui n'avait pas cette prise sur les territoires, qui pensait, parce qu'ils sont, comme l'a dit tout à l'heure Gorius, comme est-ce qu'ils sont jeunes, ils ignorent ce qu'ils ignorent en réalité. Et tant que vous vous êtes pas collé ce que a vécu Gérard Collomb toute sa vie ou d'autres grands maires de grandes villes, c'est-à-dire d'être à portée d'engueulade tous les jours sur les marchés, vous avez du mal forcément à vous rendre compte que derrière les décisions, il y a des gens, il y a des sentiments, des émotions et pas simplement des calculs et des additions.
Vous d'ailleurs, en tant qu'ancien conseiller à l'époque en communication de François Hollande, vous étiez à portée d'engueulade de qui ? C'est-à-dire, ça pouvait être qui vos interlocuteurs qui vous disaient « Mais je comprends pas pourquoi le président n'écoute pas ce qu'on lui dit ?»
Moi, je...
Tout le monde, peut-être ?
Il y a ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, mais plus, moi, tous les jours, j'essayais quand même d'aller justement au café, toujours, alors à Paris, déjà, mais c'est déjà ça, et je me faisais bien engueuler par mes copains et les gens que je rencontrais qui me disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait, ton président ? On comprend rien, c'est n'importe quoi. » Et puis surtout, avec François Hollande, on allait très souvent sur le terrain. C'est-à-dire que même quand il était très, très, très impopulaire, François Hollande continuait à se déplacer partout en France, et je peux vous dire que c'était sacrément abrasif. Il ne se passait pas une journée ou un déplacement sans qu'on se fasse engueuler, mais voire houspiller ou critiquer, parfois par des opposants politiques, mais aussi parfois aussi simplement par des gens qui ne comprenaient pas sa politique. Mais il n'a jamais reculé face à ses critiques. Et je pense que ça, c'est l'honneur d'un président, et j'espère qu'Emmanuel Macron fera pareil.
Jacques Barthélémy.
Oui, je partage assez ce jugement. Gérard Collomb, c'était un grand élu local qui connaît sa ville, évidemment, par tous les aspects, et qui, au ministère de l'Intérieur, était justement, à la limite, bien placé, puisqu'il avait de l'expérience d'élu local. Alors après, bon, moi j'ignore les raisons de son départ, et en tout cas, ce que je constate, c'est que malgré la présence d'un préfet de région, qui fut d'ailleurs un de mes successeurs ici, en Franche-Comté, ça n'a pas fonctionné complètement. Mais je crois qu'il faut, sur cette affaire-là, se dire que c'est de la variété des conseillers que vient sans doute le croisement des opinions et donc le fait que la décision du politique peut être mieux prise.
Et à ce titre, justement, une réforme de l'État qui passerait notamment, il n'y a pas que ça bien sûr, mais par une réforme de l'ENA, ça vous semble une direction intéressante, Jacques Barthélémy ?
Dans les propositions du président de la République actuel, oui, envoyer les futurs candidats au grand corps sur le terrain, bien sûr, ça ne peut que leur faire du bien. Moi, j'ai fait l'itinéraire inverse, c'est-à-dire que j'ai fini au Conseil d'État après avoir fait une carrière préfectorale. Et j'ai pas regretté du tout mon passage au Conseil d'État. Mais vous passez d'un métier d'action à un métier, j'allais dire, contemplatif et juridique. Parce que le Conseil d'État, c'est un petit côté monacal, mais très brillant et très intéressant. Donc, moi, je crois qu'il faut faire du terrain, bien sûr, aux énarques de la botte, comme on dit, mais il faut également que l'ensemble des décisions soient déconcentrées un peu plus. Les administrations centrales ne devraient avoir qu'un rôle de direction, donner des directives, évaluer, voilà. Mais laisser aux représentants de l'État dans les départements et les régions le choix de décider de la mise en œuvre des politiques publiques. Après tout, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça. Si on reçoit des circulaires en permanence ou disant il faut faire ci ou faire ça, franchement, c'est assez frustrant. Il faut, à la limite, permettre au préfet de prendre des décisions. Si elles sont pas bonnes, eh ben le préfet se fait virer. Si elles sont bonnes, il est promu. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, il faut arrêter d'avoir des préfets qui sont tous les jours à demander des instructions au cabinet des ministres. C'est absolument insupportable. Parce qu'ils n'osent plus lever le petit doigt. Donc, il faut redonner un peu de souplesse aux représentants de l'État, qui travaillent évidemment en liaison avec les élus locaux. Parce que sans les élus locaux, on ne fait pas grand-chose.
Aurore Gorius.
Oui, alors effectivement, la décision beaucoup plus décentralisée, ça paraît être une très bonne piste. Parce que quand on travaille sur l'entourage des ministres et l'entourage élyséen, c'est toujours très compliqué de comprendre comment c'est façonné la décision publique, d'où ça vient. C'est très secret, c'est des endroits très secrets avec, on l'a dit, des courtisans, des gens qui sont dans l'entourage, qui communiquent très peu à l'extérieur. Et du coup, il y a aussi des décisions qui sont prises non seulement déconnectées, mais en plus dans une forme d'opacité.
Qu'ont pas forcément d'ailleurs le droit de... Enfin, il y a aussi des devoirs de réserve qui font que la parole ne se libère pas facilement. Hein.
Certes.
Avoir un préfet en exercice ce soir, je pense que ça aurait été très compliqué.
Oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Mais après, c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a un pouvoir qui fonctionne quand même en circuit fermé au plus haut sommet de l'État. On l'a dit pour Emmanuel Macron, mais ça a toujours été un peu vrai, peut-être moins sous François Hollande, parce que on sait que c'était peut-être un peu plus ouvert, mais quand même, c'est quand même comme ça que ça fonctionne dans la machine élyséenne, dans les ministères. Et du coup, on a du mal, en tant que journaliste, à avoir des informations, ça c'est très clair, et on ne sait pas trop comment les décisions sont prises. En plus, dans une toute petite équipe, et c'est vrai que peut-être qu'il y a des décisions qui sont prises au plus haut sommet de l'État qui pourraient être prises localement de façon plus intelligente.
Gaspard Ganzer.
Il y a quelque chose qui a été un peu moins retenu hier dans l'allocution d'Emmanuel Macron, mais qui est intéressant, c'est quand il parle de cette concertation qu'il va ouvrir au niveau territorial avec les maires. Et ça m'a surpris, mais j'ai été heureusement surpris, pour vous dire la vérité. J'espère que ça ne sera pas un gadget, mais s'il le fait vraiment un peu sous la forme d'assises territoriales, comme à un moment, je crois, Jean-Pierre Raffarin l'avait fait pour préparer une nouvelle vague de décentralisation après 2002 et donc ce choc du 21 avril quand lui était Premier ministre de Jacques Chirac, je trouve que c'est une bonne idée. Si on peut organiser ces forums décentralisés dans lesquels on retrouvera tout le monde, les corps intermédiaires dont parlait le préfet Barthélémy, mais aussi des élus locaux, mais aussi la société civile dans sa diversité, et puis les habitants des Gilets jaunes et des autres, ça je trouve ça intéressant. Ça sera certainement abrasif, mais profondément citoyen et intéressant.
Il a aussi dit qu'il voulait en assurer la coordination indirectement.
Bah, j'ai hâte de voir ça. Mais moi, franchement, s'il joue
ce jeu... courage, parce que s'il devrait coordonner un tel
s'il joue le jeu et qu'il y va vraiment, ça risque d'être un peu tonique, mais ça sera intéressant.
Oui. Non, c'est intéressant. Après, il ne faut pas que ce soit un gadget, mais c'est vrai que les maires sont les élus les plus proches des Français, les plus populaires. Donc voilà, clairement, ils sont des relais d'information au moins autant que les préfets.
Eh ben merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à cette discussion. Aurore Gorius, donc je renvoie au site Les Jours pour lequel vous écrivez. Gaspard Ganzer, La politique est un sport de combat chez Fayard en 2017. Et puis on vous écoutera bientôt avec Émilie Aubry dans l'esprit public le dimanche. Merci à Jacques Barthélémy. La comédie du pouvoir, mémoire et souvenir d'un préfet de la République, vous l'avez publié l'an dernier aux éditions du Sequoia. Merci également à nos camarades de France Bleu à Besançon qui assuraient le
merci
duplex.
À vous.
Merci encore, que de merci ce soir, comme tous les soirs, à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Guillaume Laguigné, émission réalisée par Peyre Legras, avec à la prise de son, Pierrick Monsigny.